Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est dans 10 jours, une semaine même dans certains pays, que voteront les Européens pour élire leurs représentants à Strasbourg. Un seul Parlement donc, mais 28 scrutins et donc 28 campagnes électorales différentes, une par pays, avec des enjeux différents et des thèmes de campagne qui divergent. En France, par exemple, on a entendu parler de référendum anti-Macron, de droite Trocadéro et de division à gauche. Et pourtant, les enjeux politiques européens existent. Quels groupes politiques, quelles alliances à Strasbourg, quelles nominations au poste clé de l'Union, par exemple. La campagne pour les européennes est-elle dénationalisable? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Manuel Lafont-Rapnouille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du bureau de Paris de l'ECFR, c'est le Conseil européen pour les relations internationales, qui est le premier cercle de réflexion pan-européen. Et Flore Santisteban, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po Paris. Il y a 33 listes de 79 candidats en lice pour ces élections européennes en France. Parmi les principaux partis, et on pourrait peut-être revenir sur cette notion de grand parti, il n'y a quasiment pas d'alliance, chacun reste dans son couloir. Diriez-vous que pour les formations politiques, ces élections européennes sont surtout une façon d'exister et de se compter, Flore Santisteban?
Oui, à l'évidence. Alors, c'est une façon de se compter et je vous dirais, en fait, c'est le mode de scrutin qui favorise ce type de comportement électoraux. Alors, c'est une loi très ancienne, classique de la science politique, théorisée dans les années 50 par Maurice Duverger, qui nous expliquait que le scrutin proportionnel favorise effectivement de petites formations politiques rigides et indépendantes dans leurs alliances. Donc, typiquement, cette élection va favoriser des formations type Rassemblement National, Europe Écologie Les Verts. Voilà, donc effectivement, ils sont là pour se compter et ils parient sur l'indépendance devant les électeurs de façon, je dirais, à exister. Vous avez raison, oui.
Manuel Lafont-Rapnouille, vous adhérez à cette analyse ?
Oui, je pense qu'effectivement le mode de scrutin joue beaucoup. Il y a un certain nombre d'autres facteurs. Moi, j'ai quand même tendance à penser que ces élections européennes, en tout cas cette campagne, voit un degré d'européanisation de la discussion et du jeu politique beaucoup plus fort qu'avant, pour tout un tas de raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas pour les raisons dont on parle habituellement. On pourra y revenir ailleurs, mais si on regarde les thèmes, on voit que dans la campagne, on parle de glyphosate, de banque du climat, d'immigration, d'impôt sur le numérique, et que ce sont des sujets sur lesquels il y a des attentes de l'opinion. Il y a effectivement les enjeux institutionnels, vous en avez parlé. Je dis pas que c'est ce qui passionne les Français, mais on voit les candidats s'interpeller sur dans quel groupe allez-vous siéger, avec qui allez-vous constituer une coalition, est-ce que vous voulez faire la majorité avec tel ou tel partenaire, avec les Verts, avec les libéraux, les sociaux-démocrates. On voit les partis de droite et d'extrême droite, de droite souverainiste et d'extrême droite, chercher à s'allier, alors qu'aujourd'hui, dans le Parlement européen actuel, ils sont fragmentés. Il y a des discussions sur les lobbies, la place des lobbies dans l'Union européenne. Et puis, on voit que la campagne elle-même, elle est européanisée, que Di Maio est venu en France, et le ministre du Développement économique italien, le dirigeant du mouvement 5 étoiles, est venu en France, et ça a fait scandale. On a beaucoup parlé du fait que Marine Le Pen était allée à Prague et puis plus récemment à Tallinn.
Elle va à Milan en fin de semaine.
Et on voit qu'il y a un certain nombre les débats sont ancrés nationalement, dans le contexte national, mais ce qui se passe à l'extérieur a une influence. Le Brexit, en Allemagne, il y a un débat sur est-ce qu'il faut ou non répondre aux propositions de Macron. Ce qui s'est passé en Italie sur ce que les Italiens ont essayé de faire avec la Chine, en termes de relations avec la Chine, a suscité du débat ailleurs. Il y a un certain nombre comme ça d'effets européanisants de la campagne.
Flore Santisteban, est-ce que vous diriez que ces thèmes de campagne européens, qui c'est vrai, ont fait un peu parler, on réussit à prendre le devant du discours des listes et des candidats qui étaient en campagne dans cette campagne? Il reste 10 jours, je vous rappelle.
Oui. Alors, je suis d'accord et pas totalement d'accord avec votre analyse. C'est vrai que Emmanuel Macron, pour le dire clairement, a essayé d'européaniser cette campagne. Il a essayé de porter effectivement des listes transnationales. Ça n'a pas été possible. Vous l'avez rappelé, Luigi Di Maio est venu soutenir les Gilets jaunes à la frontière Bon, donc en essayant effectivement de dépasser le cadre national, mais je pense surtout qu'il faut revenir au contexte et au climat social français. Parce que je vous rappelle que cette élection est quand même la première depuis les dernières élections législatives, il y a plus de 18 mois, qu'on a un contexte social extrêmement tendu dans notre pays et que ça va être un test sur des enjeux, et c'est malheureux de le dire, parce que cette campagne devrait être orientée vers quelle Europe on veut pour demain, quel grand projet, une Europe véritablement tournée vers les droits des citoyens européens. Bon, c'est pas le cas, malheureusement. Et donc, je pense que malheureusement, le débat se concentre sur des enjeux nationaux. Mais ça va peut-être nous permettre de sortir, en fait, de la crise dans laquelle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Si demain, Emmanuel Macron sort en tête de ces élections, je pense qu'on va avoir une mobilisation dans la rue qui ne sera plus celle que l'on connaît depuis maintenant des semaines et des semaines. Si au contraire il sort battu et donc il n'est pas relégitimé par le scrutin, s'ouvre pour nous encore une période d'incertitude assez forte.
Cet aspect d'élection intermédiaire et de vote sanction, c'est effectivement propice au débat national. Manuel Lafont-Rapnouille, c'est un élément qui garde la campagne sur des thèmes nationaux.
Je conteste pas ça, ça me paraît évident. Je pense juste que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Je pense que si on regarde aujourd'hui dans les sondages les quatre partis qui semblent avoir le plus de chances d'arriver en tête, il y a le Rassemblement National qui a un discours très fort, très marqué sur l'Europe et qui essaye de trouver des alliés ailleurs en Europe et pour qui d'ailleurs c'est pas toujours simple. Il y a le parti présidentiel. La République en marche et on voit que le président cherche à personnaliser le débat et s'investit beaucoup dans la campagne sur les thèmes européens. Il y a les Républicains qui en font peut-être plus que les deux précédents sur la partie nationale et effectivement élection-sanction du gouvernement. Et puis il y a les Verts qui traditionnellement sont un parti très européen, sont très constitués, organisés et structurés à l'échelle européenne et ont un programme qui est un programme qui est coordonné avec leurs partenaires. Et en fait, c'est vrai partout qu'il y a une élection avec un fort contexte national où on se prononce sur des sujets d'intérêt nationaux. En Irlande, on parle beaucoup du Brexit, on parle beaucoup de la PAC. En Italie, on parle évidemment des déficits publics et de l'immigration, etc., etc. Qu'on se prononce pour ou contre le gouvernement pour des tas de raisons, et notamment effectivement pour le mode de scrutin. Mais par exemple, au Portugal, où vous avez un gouvernement qui est une coalition de gauche, le gouvernement Costa depuis 2015, qui mène une politique contre l'austérité, mais sans euroscepticisme, c'est très difficile de distinguer l'enjeu national de l'enjeu européen, parce que justement toute la politique du gouvernement Costa est de trouver une façon de rester européen tout en contestant la politique d'austérité qui avait été imposée par son prédécesseur. Et donc moi, ce que je trouve intéressant dans cette élection, dans cette campagne, c'est la combinaison des deux.
Flore Santisteban, ça a été évoqué par Manuel Lafont-Rapnouille à l'instant. Il y a peut-être des partis qui abordent plus les thèmes européens que d'autres. Les tout derniers développements de cette campagne, on entend beaucoup parler de droite Trocadéro contre droite Solferino. Il reste quand même des débats au sein des familles politiques de droite et de gauche. Hein. On le disait en début d'émission, il y a beaucoup de candidatures de gauche parce qu'on se compte, tout simplement. C'est inévitable.
Oui, c'est inévitable, mais je dirais que malheureusement, ça nationalise la campagne parce que effectivement, on assiste à une recomposition, plutôt un éclatement en fait des forces politiques. La gauche évidemment est totalement divisée avec France Insoumise qui là pour le coup souhaite vraiment se compter et n'entend pas s'allier ou tendre la main, que ce soit avec les communistes, avec Place Publique, avec les écologistes, avec on compte plus les listes dites de gauche qui se présentent à cette élection. Vous avez de l'autre quand même, c'est vrai, ce débat sur la droite Trocadéro, la droite Solferino, qui est quand même, mais pas à la hauteur des enjeux de cette élection. On voit Laurent Wauquiez sortir dans la presse et Et dans cette interview, effectivement, régler ses comptes avec le Premier ministre. Enfin, je veux dire, les Français attendent autre chose d'une élection comme celle-ci, où effectivement, on devrait parler de réglementation, d'environnement, de dumping social, de dumping fiscal, de comment est-ce qu'on fait pour changer le mode de gouvernance de l'Union européenne, comment est-ce qu'on avance sur des majorités de projets. Voilà ce qu'on voudrait entendre dans cette campagne, et certainement pas de vieilles querelles et des haines recuites, que ce soit à gauche, à droite. Bon, ça donne le sentiment que c'est pas vraiment à la hauteur des enjeux.
Manuel Lafont-Rapnouille, comment est-ce qu'est abordée la question européenne dans la campagne française, hein? Est-ce qu'on est toujours sur un débat rester pour ou contre l'Europe, ou sortir des traités sans vraiment sortir de l'Union, même si c'est un peu antinomique, ou est-ce que ça a un peu évolué? Est-ce que ces thèmes infusent plus généralement dans la campagne française, les thèmes européens?
Pas assez
à votre goût,
clairement. Ouais. Mais justement, je pense que l'évolution dont je parlais tout à l'heure, elle est aussi la conséquence du fait que, y compris par rapport à il y a pas si longtemps, en 2017, la présidentielle, on avait un débat avec, au deuxième tour en tout cas, un candidat pro-européen, pro-intégration, et une candidate qui disait il faut sortir de l'euro, et dont on soupçonnait qu'elle voulait même sortir de l'Union européenne. On voit bien que aujourd'hui, pas uniquement à cause du Brexit d'ailleurs, ou pas uniquement à cause du score pas très bon, parce que c'est quand même 10 millions de voix, donc c'est pas non plus rien du tout, mais du score pas très bon de Marine Le Pen au deuxième tour en 2017, on voit qu'il y a une espèce de recentrage, et c'est pas plus d'intégration ou le statu quo contre le Frexit, et des deux côtés en quelque sorte, il y a un discours qui cherche à dire, on est pro-européen mais on veut pas le statu quo, on veut changer l'Europe, et donc ça force les candidats et le discours à, en tout cas la partie de la campagne qui traite des sujets européens, parce que je suis d'accord qu'on traite aussi de beaucoup autre chose, mais ça, c'est pas le propre de la campagne des européennes uniquement. Y a effectivement un discours qui est un peu plus complexe ou subtil, et on va chercher les candidats, et les candidats vont se chercher là-dessus. Je dis pas que ça prend une énorme part de la discussion, et c'est encore moins le cas en France, où en fait il y a pas beaucoup de sortants qui sont candidats, les partis ont cherché d'autres gens, mais on va chercher les uns et les autres sur ce pourquoi ils ont voté, y compris d'ailleurs des fois avec des informations qui sont erronées, mais il y a ce début de discussion effectivement sur, non pas est-ce qu'on est pour ou contre l'Europe, mais sur quel genre d'Europe on veut, qui me semble un débat effectivement important à avoir, parce que effectivement je pense que c'est plus comme ça que est-ce qu'il faut sortir ou pas de l'Union Européenne que la question se pose.
Vous m'avez tendu une très jolie perche, il y a peu de sortants qui sont candidats dans cette élection, dans la composition des listes, et donc en fait peu de spécialistes des questions européennes et du fonctionnement du Parlement européen, ça c'est un problème, Flore Santisteban?
Alors, écoutez,
on a beaucoup entendu parler d'eurodéputés qui voulaient y retourner, mais qui n'ont pas eu de place sur les listes, tout simplement.
Alors, vous avez raison. Je pense notamment quand même à une exception qui est Éric Andrieux, qui est troisième sur la liste, et Sylvie Guillaume aussi, de mémoire, deuxième sur la liste Place Publique Parti Socialiste, qui, eux, pour le coup, sont vraiment des techniciens. Et je pense en particulier à Éric Andrieux, qui a fait preuve et montre de beaucoup de volonté, notamment sur les sujets du glyphosate. Donc, il y a quand même, je dirais, des hommes et des femmes d'expérience. Mais là, c'est l'effet Macron, d'une certaine façon, que je vois en fait transparaître dans ce besoin. Et dans ce...
On renouvelle. Hein,
voilà, on renouvelle, et on essaie effectivement de faire apparaître de nouvelles figures, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Bon, je pense en particulier à la France Insoumise, dont la candidate à ce stade n'est pas la mieux placée au regard des scores de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, et puis au moment des législatives. Mais oui, c'est effectivement donner la chance à de nouveaux entrants. Le Rassemblement National fait ce pari, les Républicains font ce pari, la France Insoumise aussi. Et il y a quand même, il faut le dire, en sortant, Yannick Jadot, qui est aussi, lui, tête de liste sortante chez Europe Écologie Les Verts.
Manuel Lafont-Rapnouille, on a un petit peu l'impression, parfois, hein, que on se prive de certaines compétences pour essayer de caser certains candidats quelque part, de leur donner un mandat.
Alors, c'est vrai. Je peux penser à encore une autre exception pour essayer de nuancer un peu. Il y a Arnaud Danjean qui est numéro 3 sur la liste Les Républicains, qui lui aussi a une certaine crédibilité dans les cercles européens. Donc il y en a quand même quelques-uns, mais on voit bien qu'effectivement c'est pas comme ça que ça marche, et que le sentiment est que politiquement ça donne pas une prime face aux électeurs d'avoir un bilan européen. Et d'une certaine manière, on sait que le bilan des députés Front National, Rassemblement National au Parlement européen est très décrié, et ça les empêche pas d'être très très haut placé et même en tête dans la plupart des sondages. En fait, au-delà de ce cas précis sur les sortants, il y a ce paradoxe où on voit que l'importance du Parlement européen et des pouvoirs, des prérogatives du Parlement européen a cru quasiment de façon constante depuis 1979, et que pourtant la participation électorale, elle, a décliné de façon parallèle, enfin divergente au contraire. Et si on regarde parmi les grands textes clés du bilan du Parlement européen de la précédente législature, il y a des décisions importantes sur la sécurisation des frontières, sur Frontex, l'agence de sécurité aux frontières, sur le numérique, ce qu'on appelle le règlement général de protection des données, sur les droits d'auteur, sur les travailleurs détachés, sur l'accord de Paris sur le climat, sur des accords de libre-échange dont on sait que c'est des sujets qui sont très sensibles dans l'opinion, sur la lutte contre le terrorisme, avec des votes assez clivants d'un certain nombre de partis qui sont candidats aujourd'hui en France. Et pour autant, on n'a effectivement pas l'impression que ça suffit à attirer et mobiliser les électeurs. Et moi, c'est ça qui me frappe encore plus que le degré national de la campagne, c'est qu'elle a beaucoup de mal à mobiliser les électeurs, d'une certaine manière, quels que soient les thèmes et quelle que soit l'importance des pouvoirs du Parlement. Et je pense que c'est ça, plus que le manque d'européanisation, qui est un signe de la difficulté de la période politique dans laquelle on est.
Alors, je reviens sur la composition des listes pour évoquer un autre aspect, c'est qu'on peut avoir des candidats d'un autre pays sur sa liste, mais finalement, Flore Santisteban, dans les listes, les quatre grandes que vous avez évoquées, il n'y en a pas vraiment, pas beaucoup en tout cas, pas en position mise en avant, pas forcément éligible, alors à part peut-être Sandro Gozzi sur la liste Renaissance.
Oui, effectivement. Alors, je sais que les socialistes avaient essayé de faire une liste plus européenne et que finalement ils n'y sont pas arrivés. Mais voilà, ça, je dirais que c'est encore une fois la démonstration qu'on est sur du franco-français. Voilà, on peut le regretter. Effectivement, on pourrait imaginer des partis, notamment les écologistes, qui effectivement ont une culture bien plus internationalisée que les autres, s'ouvrir à d'autres citoyens, enfin des citoyens d'autres pays. C'est pas le cas.
Est-ce que c'est le cas, Manuel Lafont-Rapnouille, dans d'autres pays, à votre connaissance, des listes un peu plus internationales ?
J'ai pas regardé, mais au-delà de ce point-là, il y a effectivement tout un tas de dispositifs institutionnels qu'on a cherché à mettre en œuvre pour essayer de mobiliser les électeurs. Donc il y a l'idée d'avoir des candidats européens, mais pas forcément nationaux sur les listes, qui effectivement existent depuis longtemps, et les Verts sont effectivement traditionnellement ceux qui l'utilisent le plus. Là, je dois dire que j'ai pas regardé dans le détail, donc je pourrais pas vous répondre.
Vous avez posé une petite colle, pardon, excusez-moi.
Il y a pas de mal. Il y a d'autres dispositifs. Il y a l'idée, ce qu'on appelle les Spitzenkandidaten, qui est l'idée que chaque grand parti choisit quelqu'un et que s'il arrive en tête, eh bien, ça sera ce quelqu'un qui pourra être à la présidence de la Commission. Macron avait poussé l'idée d'un projet de liste transnationale. Bref. On cherche à institutionnaliser une européanisation de l'élection et des campagnes, et en fait c'est pas ça qui produit la mobilisation, c'est plus les sujets qui sont des sujets européens sur lesquels les électeurs se sentent effectivement mobilisés, et puis c'est aussi le résultat des crises qui démontrent l'interdépendance qu'on a entre nous sur le terrorisme, l'environnement, l'économie, les migrations et le Brexit. Démontre ça quand même beaucoup.
Il y a eu hier soir un débat entre les Spitzenkandidaten, c'est-à-dire donc les candidats désignés par les groupes politiques du Parlement. Il fallait un peu chercher pour le voir en France, hein, par exemple sur les chaînes info, c'était peut-être d'autres débats entre politiques français qui étaient mis en avant, mais c'était possible, c'est encourageant, Flore Santisteban.
Oui, c'est encourageant, effectivement. Après, c'est vrai que la question est de savoir comment intéresser le citoyen à la question européenne, qui est une vraie question de fond et qui effectivement appellera une mobilisation ou non le 26 mai prochain. Ce sont des enjeux qui sont majeurs, qui ne se décident plus à l'échelon national, et pour autant, les Français se sentent de moins en moins concernés par ces questions. Et je vous dirais que oui, il faut favoriser effectivement la communication autour, je dirais, de candidats qui portent des sujets à l'échelon plus transnationale que ce que ça n'est aujourd'hui.
Merci Fleur Santisteban, merci Manuel Lafont-Rapnouille d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Prochain débat lundi, même heure, même endroit. Demain, c'est les Dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.